Voilà, à présent, nous allons écouter Jocelyne, que nous avons eue hier soir un peu rapidement, puisque c'était la fin de notre émission. Et je voudrais que, voilà, qu'on s'accorde encore quelques minutes avec elle pour pouvoir un peu échanger, puisqu'il était question à ce moment-là pour Jocelyne d'évoquer des choses, de dire beaucoup de choses, mais on a eu peu d'occasions d'échanger l'une et l'autre. Donc à ce titre, eh bien, je vous propose que nous reparlions avec elle. Bonsoir Jocelyne.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, hier nous avons arrêté un petit peu in extremis. Je n'ai même pas je n'ai pas eu le temps de dire au revoir aux éditeurs. Alors, attention.
Plus rapide que le furet, le temps. Hein.
Voilà. Alors, attention, Jocelyne, hein, cette fois-ci, vous me laissez dire
absolument.
Au revoir.
Alors, je dois vous dire, je suis quelqu'un d'émotif, et vous le savez parfaitement, vous êtes une spécialiste. C'est que les émotions me débordent, et alors je. Vous savez, c'est l'histoire du vélo qui court là. Et puis, ce n'est pas que je ne suis pas à l'écoute, c'est que je suis débordée, dépassée par mes émotions. C'est insupportable d'ailleurs pour soi.
Oui, mais je comprends. Je comprends. Alors, et parfois, vous savez, pour ne pas être trop débordée, accordez-vous quelques respirations. Laissez-moi vous parler un peu, ce qui permet de faire retomber un peu la pression.
Absolument.
Avant de reprendre les choses. C'est ça aussi, parce que hier, ce dont nous parlions hier, puisque pour les auditeurs qui ne nous écoutaient pas, c'était toute la difficulté du zèbre qui justement...
C'est la difficulté, c'est pour ça que je parlais d'anomalie.
Alors, c'est anomalie, pas nécessairement... Hein. Difficulté.
Oui, difficulté très grande.
Voilà, comme je dirais que la difficulté du petit, c'est qu'il doit se mettre sur la pointe des pieds pour attraper des choses sur l'échelle. Ça ne veut pas dire qu'il est anormal, il est juste petit. Et donc, ça entraîne quelques difficultés. Le zèbre a de grandes qualités, le zèbre que vous êtes, parce qu'il y a autant de zèbres
Absolument.
Et chacun a sa couleur, hein, ils ne sont pas tous zébrés exactement pareil. Mais en ce qui vous concerne, il y a tout d'un coup une hyperactivité, une hypercuriosité, un besoin d'être nourri, plus, et puis une difficulté de faire avec les autres. Et sauf que la difficulté de faire avec les autres, ça entraîne chez vous, évidemment, beaucoup d'émotions, parce qu'il y a une insécurité entre écouter les choses qu'on se choisit et faire avec la spontanéité.
Non, c'est pas tellement une insécurité. Hein.
D'accord.
Ça peut induire a posteriori une insécurité, mais c'est pas tant une insécurité. Là, par contre, être en direct, c'est parce que je suis émotive, je suis pas sûre de moi, je traverse une période très dure. Dans notre contexte, j'aurais su m'expliquer de manière très concise et très claire, voilà.
Alors, justement, on va essayer de prendre, Jocelyne, un seul sujet.
Absolument.
Un seul sujet.
Alors, avant tout, parce que je voudrais m'excuser auprès d'un auditeur, Damien, qui appelait jeudi dernier, le 22 juillet, là, et que j'ai rappelé plus tard Calvin, pour avoir ses coordonnées. Et donc, il m'a laissé un message, un SMS très sympathique hier matin. Et malheureusement, ça fait partie du... On est en plein dedans, l'émotion, le ceci, le cela. Au lieu de... J'ai zappé son numéro, j'ai tout effacé, voilà. Donc, si Damien nous écoute, je lui présente mes plus vives excuses, mes plus plates excuses, et s'il pouvait me rappeler, voilà.
Alors, Damien, si vous vous reconnaissez, Jocelyne attend vos coordonnées qu'elle a perdues, tout à fait par inadvertance et beaucoup d'émotivité. Donc, n'hésitez pas, soyez résistant et constant, revenez, redonnez vos coordonnées, ils seront transmises à Jocelyne. Voilà, le message est passé.
Merci, vous êtes adorable.
Passé et maintenant, nous allons nous occuper de vous, Jocelyne. Alors,
de nous,
on va se proposer une règle du jeu. Un seul sujet.
Absolument.
Dès que vous sortez du sujet, je dis halt. Donc, vous restez dans le sujet. Pourquoi? Pour qu'on essaie un petit peu de comprendre ce qui se joue. Alors, vous disiez qu'en ce moment, vous passez une phase un peu difficile.
J'ai jamais rencontré ça.
Alors, justement, est-ce que ça vous convient que l'on puisse un peu essayer de comprendre ce qui se passe pour vous, qu'on puisse écouter ce qui se passe pour vous, éventuellement, si j'ai quelque chose à vous en dire, je vous en dirai des choses. Si ça vous va, est-ce que ce sujet vous va et on reste sur ce sujet?
Oui et non, le problème du zèbre, il est à cheval. Moi, je n'aurais jamais déduit que je pouvais être zèbre, hors ce contexte-là que je connais depuis quelques années maintenant. Voilà, mm-hmm. si vous m'aviez, il y a une dizaine d'années, je n'aurais pas pensé une seule seconde, je n'aurais pas déduit que c'était zèbre. Voilà. Mm-hmm. Hein, c'est en rencontrant des tas de gens avec des casquettes différentes, avocats, médecins, etc., patrons de brasserie, etc. Je ne sais pas, mais c'est le contexte aujourd'hui aussi social, où chacun est dans l'entre-soi, c'est chacun sa gueule, enfin c'est comme ça. Voilà, donc...
Alors,
je vous écoute.
Oui, alors justement, donc, nous allons essayer d'avoir quand même un sujet parce que vous êtes une coquine, vous me baladez un coup à droite, un coup à gauche. Heureusement, je ne souffre pas le mal de mer. Donc, de toute façon, nous allons en prendre un de sujet. Pour l'heure, on va faire une petite pause. Vous entendez la musique derrière moi. Donc, c'est une pause simplement le temps d'un flash info. Et puis, je vous reprendrai tout de suite après. Donc, attention, pendant ce flash info, je vous invite à réfléchir le sujet que vous voulez que nous abordions et un seul sujet, Jocelyne, d'accord ?
Un seul sujet, d'accord.
Donc, vous y réfléchissez, vous vous concentrez et on se reparle juste après ce flash, d'accord ?
D'accord, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc, accompagne vos nuits.
Et nous retrouvons Jocelyne pour... un sujet qu'elle a choisi pendant ce flash info et nous espérons ne pas faire une balade à dos de zèbre. Alors, ma chère Jocelyne.
Je sais pas si ça existe, hein, franchement.
Alors,
il ne se laisse pas faire le zèbre. Hein.
Bah non, évidemment, il ne se laisse pas faire, c'est sûr. Alors, oui. De quoi souhaitez-vous que nous parlions ? Prenons
alors,
un sujet.
Vous êtes des excellents conseils, hein, Catherine. Vous êtes quelqu'un de... Je vous l'ai dit l'autre jour, hein, franchement.
Oui, vous avez été presque trop gentille.
Dans l'axe, c'est très difficile parce que ce que je vis actuellement cause de l'épuisement, etc. Mais enfin, je suis très lucide en même temps. Hein.
Alors, qu'est-ce
que
vous épuise
actuellement? Alors, certainement des accents qui viennent de ma vie d'avant.
Alors,
voilà, alors, je vais résumer, mais je vais revenir quand même. Et ça fait partie de tout ce que de cette particularité. Ma chère zèbre, ils ont beaucoup de choses à dire.
Alors
le contexte actuel,
oui,
tout simplement en deux lignes. Hein,
oui.
En deux lignes.
Ah, super.
Voilà, je pensais pas connaître ça, vraiment, qui est très très violent sur un plan social, personnel, c'est à cheval. C'est que l'appartement de mon ancienne propriétaire a été racheté par quelqu'un qui s'avère être un marchand de sommeil, escroc. Alors moi, c'est pas escroc, je l'ai pas inventé comme ça. C'est un agent immobilier il y a quelques années qui m'a, voilà. Alors je résiste, quand bien m'a. Et j'ai découvert que j'étais en capacité de résister parce que je ne peux plus rien faire. Je suis en stand-by. Voilà,
alors, quelle est concrètement la situation? C'est-à-dire, comme il a été racheté, cet appartement dans lequel vous êtes, quelle est la difficulté? C'est qu'il augmente les loyers?
Non. D'abord, il a racheté l'appartement de mon ancienne propriétaire, dont il savait parfaitement que mon loyer était mon bail était en fin de terme, hein, de trois mois. Voilà.
D'accord.
Il m'a fait visiter un appartement dont j'ai appris qu'il avait les clés de manière presque bizarre, pour pas dire illicite, enfin voilà. Et c'était pour simplement utiliser l'appartement pour loger des gens qui sont en situation d'asile, voilà, etc.
D'accord.
Hein, pour le business.
Donc en fait, il veut que vous libériez les lieux.
Voilà.
Et donc il vous cherche un autre lieu pour pouvoir profiter
voilà,
de celui-là.
Voilà, sauf qu'il n'est pas arrivé, parce que voilà. Et puis d'ailleurs, l'agent immobilier qui était en charge de cet appartement, d'ailleurs dans la même rue, c'est extraordinaire, hein, mm-hmm. un propriétaire, voilà, qui vous trouve un logement. Je pense que ça n'existe pas. Hein, voilà, donc il savait bien qu'il me mettait en difficulté.
D'accord.
Hein, voilà.
Et alors, justement, vous...
Alors, je résiste depuis 8 ans, je crois.
8 ans, d'accord.
Et je alors, résiste.
Et cette résistance, est-ce que c'est une résistance au quotidien, donc tout à fait épuisante? Et est-ce que vous
au
avez...
Au quotidien, oui, bah, absolument.
Voilà. Et trouver autre chose, ce n'est pas concevable parce que ça augmenterait...
Ah non, ce n'est pas concevable pour moi. J'ai subi de gros préjudices, donc je ne pars pas.
D'accord.
Excepté, si, moi, je suis... Moi, chez moi, il y a une règle, hein, c'est l'état de droit. Il n'y a pas plus, voilà.
Bien
On
sûr.
Est dans un état de droit, c'est comme ça... On est dans une république, voilà, donc...
Et alors, justement, quand vous dites c'est impossible...
Vous pensez bien que depuis 8 ans, normalement, j'aurais dû être dégagée hein, par les forces de l'ordre, la justice et tout ça.
Mm-hmm.
Donc ça veut dire que je suis bien dans mon droit.
Bien sûr, bien
j'ai
sûr.
Je n'ai pas réussi encore. Il y a eu des dépôts de plaintes pour des trucs violents, nuisances sonores, etc.
D'accord.
C'est extraordinaire, ce qu'on peut déployer. Voilà.
De sa part, à vous qui êtes toute seule et qui, évidemment, vous faites que la castafiore le soir, c'est bien tout ce que vous pouvez faire en matière de désordre.
Merci.
Merci
d'évoquer Hergé, c'est un temps. Non, mais à travers ça, j'ai découvert que ce qui me permettait de résister, c'est ce qui me précédait, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des figures exemplaires, c'est une expression d'Alain Badiou, philosophe, communiste, etc., dont j'ai rien lu. Voilà. J'ai découvert ça. C'est-à-dire, je pense qu'à travers des épreuves comme ça, extérieures à nos vies personnelles, on découvre d'abord l'état d'une société qui est assez bizarre, oui. Nous sommes nombreux en France et en Navarre à combattre des trucs absolument difficiles, hein. Et voilà, il y a chez moi, oui, il y a des figures exemplaires, oui.
Et alors justement, cette situation-là, pour que je la comprenne bien, quand vous dites il n'est pas concevable que je change de lieu, est-ce que c'est parce que justement,
dans le contexte actuel,
bien sûr.
Si c'est pas moi un refus de partir dans le respect des lois, hein, voilà.
Oui, non, mais ce que je voulais savoir, c'était est-ce que parce qu'il y a des gens qui ont un peu besoin de leur tanière et ils ne peuvent pas être délogés de leur tanière. Est-ce que c'est un attachement au lieu ou c'est un combat vis-à-vis de l'injustice?
Que l'attachement au lieu est important parce que c'est un appartement très particulier que j'ai aménagé il y a très longtemps avec le deuxième homme de ma vie. J'adorais ce lieu. Il est agencé de manière très particulière. Ce sont trois grandes pièces qui s'étalent en longueur. Voilà, on est obligé de tourner. Mm-hmm. Puis voilà, je suis bien exposée.
Vous y avez vos repères, etc.
Oui, absolument. J'ai adoré vivre dans cet appartement qui ne ressemble plus à rien parce que quand on est en stand-by, on est en stand-by pour tout. Quoi. On ne fait plus rien.
Bien sûr. Et alors, justement, vous, dans votre cas, est-ce que vous avez aussi besoin de ce lieu parce qu'il raconte votre histoire avec votre deuxième homme de votre vie ?
Ah oui, absolument.
C'est ça. Et pour vous, le déménagement représente potentiellement, imaginons que vous trouviez qu'on vous trouve un appartement formidable, est-ce que le fait même du déménagement, de devoir plier
non,
vos affaires, déplier...
Non, c'est pas ça. J'ai déménagé quatre fois.
Ça ne pose pas de problème.
C'est le cinquième appartement, je crois, depuis 40 ans.
Jocelyne, vous ne parlez plus dans le téléphone, là. Allô, Jocelyne.
Oui, d'accord.
Jocelyne, allô.
Oui.
Vous ne parlez plus
non,
dans
je
le...
Je répondais à votre question.
Oui, oui, mais on ne vous entend pas, en fait. Ça ne me dérange pas que vous répondiez, mais on ne vous entend pas. Vous ne parlez plus dans le micro. Enfin, dans votre téléphone.
Pardon. C'est moi, je vais changer de place.
Ça y est, là, je vous entends parfaitement.
Là, vous m'entendez mieux.
Oui, donc vous me disiez, je n'ai pas entendu.
D'accord.
Donc,
là, vous m'entendez bien, Catherine.
Parfaitement, parfaitement. Donc,
d'accord.
Vous étiez en train de me répondre, mais je n'ai pas entendu votre réponse.
Oui, alors, moi, non. Parce qu'il y a 8 ans, quand ce propriétaire, plus qu'un délicat, parce qu'il a fait son enquête, pour trouver une proie, une femme seule, isolée, voilà, dans une situation Voilà, il a trouvé. Je l'ai même... Je me suis même souvenu qu'il avait été invité par un ex-ami, qui n'est plus un ami, qui était un traître, qui était un lâche, journaliste, correspondant de l'Express, qui s'était trouvé là. Mm-hmm. Extraordinaire. Il a même flairé jusqu'à mes connaissances.
D'accord.
M'avoir. Donc voilà.
D'accord.
Si on veut m'avoir, il faut m'abattre, il faut me tuer. Je me suis découverte ça.
Je pense que vous avez
ça il y a 10 ans, je l'assure.
Je pense que vous avez le cuir bien dur. Hein. Ils sont pas prêts d'y arriver.
Non, je l'ai très doux.
Non, mais dur. Vous l'avez certainement être câliné, mais vous êtes résistante.
Non,
c'est
non,
que je voulais
c'est
dire.
Par rapport à des choses passées que je n'accepte pas. C'est pas seulement par rapport à moi. C'est par une vision de la société, une vision des choses. Voilà, je ne supporte pas. Voilà qu'on agisse. On a des défauts tous. Hein. Vous le dites vous-même,
bien sûr.
Peut être manipulateur, etc. Mais aller jusqu'à foutre la vie de quelqu'un en l'air pour des raisons de business, non.
Et du coup, votre difficulté que vous avez en général à communiquer avec les uns et les autres, quand vous êtes surprise, etc. Est-ce que ça vous empêche du coup de vous faire défendre par des associations, je ne sais pas.
Alors j'ai une capacité, oui. Alors j'ai une grande... Il y a quelque chose d'une... C'est pas seulement une blessure, c'est un grand handicap. Ça, je le traîne depuis longtemps. J'ai une capacité presque ontologique à me faire aider. Quand bien même, j'appelle à l'aide. C'est complètement contradictoire.
Oui. Et donc, vous restez seule avec votre demande qui ne reçoit pas de retour parce que
Non. Alors, pour l'instant, mais... choses vont se débloquer. Quand, je n'en sais rien. Je ne sais pas.
À nouveau, vous êtes un peu éloigné du téléphone, là. Faites attention.
Oui, pardon, je suis revenue à ma place. Je vais
De grâce, oui. Jocelyne, ne bougez plus.
Oui, je ne bouge plus.
Alors, règle numéro 1, on ne fait pas plusieurs sujets. Règle numéro 2, on ne bouge plus. D'accord. Bon, et alors justement...
Dites-moi, Catherine, est-ce que ça va jusque-là?
Ça va.
Parce que, est-ce que vous me comprenez jusque-là?
Parfaitement. Alors, ce que je voudrais savoir, parce que vous évoquez beaucoup, justement, la dangerosité que représentent les autres, qui veulent se jouer de vous, profitant de votre solitude.
De tout le monde.
Oui, mais de certains.
Absolument.
Dans votre histoire personnelle, dans votre histoire d'enfant, vous avez été quelqu'un qui a été sécurisé, pas sécurisé, vous avez trouvé
des...
Qui a eu un rôle de sécurité pour vous?
Je crois en partie ma mère, pas totalement. Ma mère, c'est une longue histoire. C'était une femme aussi qui a payé très cher sa liberté. C'est pour ça que je résiste aussi.
D'accord, parce que elle l'a payé
comment? Vous voulez que je raconte brièvement l'histoire de ma mère?
Alors, brièvement, on a dit. Hein.
Brièvement. Alors, ma mère, c'est une femme qui était très belle. Je tiens un peu d'elle, mais pas totalement, qui avait beaucoup de grâce et d'intelligence de cœur. Et qui a eu un premier grand amour. Malheureusement, ce premier grand amour est mort d'une tuberculose, comme beaucoup de gens à cette époque-là, dans les années 40-50. Et puis, elle rencontre un deuxième homme qui sera notre père, mes deux frères et moi, et qui sera son mari. Voilà. Sauf que c'était une femme très indépendante et très autonome. Elle travaillait. Voilà. Sauf que quand elle rencontre mon père, qui est officier dans l'armée, elle fera partie de ces femmes qui seront obligés de rester à la maison, et voilà. Donc, elle a payé très cher cette liberté qu'elle avait, et elle n'a jamais fait subir à ses enfants, mes deux frères et moi, voilà, cette mise en rencard, enfin, voilà, ces femmes-là qui ne pouvaient pas avoir un chéquier, etc., etc.
Hein? Et qui étaient toutes seules à porter tout, en plus. C'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune autonomie.
Oui, parce qu'il faut imaginer une femme qui est privée de sa liberté de travailler. Hein, c'est une femme heureuse. Moi, mon cousin m'avait dit, quand je voyais ta maman, elle était heureuse de travailler. Elle aurait voulu aussi se marier de manière posthume. Ses frères et sœurs, c'est une dernière d'une fratrie de quatre. Il y avait 15 à 18 ans de différence.
Ah oui, bien sûr. Et cette maman, d'ailleurs, elle se serait réalisée dans quoi? À quoi a-t-elle renoncé?
À son travail, qu'elle aimait profondément.
Voilà, mais quel univers, je voulais dire?
Elle travaillait dans une maison, on appelait ça les maisons, c'est-à-dire c'était la maison Manuguet, voilà, et elle travaillait dans un grand magasin de produits de beauté.
D'accord.
C'est-à-dire que l'équivalent, ça serait dans les galeries Lafayette ou autre part, être responsable de tout le rayon produits de beauté, voilà. Donc je la regardais, je la contemplais quand j'étais enfant.
D'accord. Et son mari lui aura manqué. Est-ce que votre papa vous aura manqué? Il aura été très absent.
Eh ben, il a fait pas. J'entendais Paul avec beaucoup d'intérêt. C'est que deux histoires qui se rencontrent. Mon père, qui est un enfant naturel, c'est une longue histoire tout ça. Hein. Reposez-moi la question, s'il vous plaît, Catherine.
Je vous demandais si votre papa a été un manque pour vous en tant qu'enfant et pour votre mère en tant que mari, enfin en tant qu'épouse.
Un manque, c'est-à-dire à travers cette question, la question de la sécurité, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Bon, alors mon père, malheureusement, c'est un homme qui était extrêmement bon, mais qui pouvait être sadique.
Sadique,
c'est pas un mot en l'air.
Bien sûr,
voilà,
bien sûr.
Parce que mes deux frères en ont payé les... Alors, c'est en relation avec une partie de la vie de Paul, c'est-à-dire que mes deux frères, étant donné que mon père a été appelé en Algérie, il était officier déjà, il est dans l'armée, il s'engage dans l'armée après 45, et donc mes deux frères, l'aîné Jean-Marc et Francis, le cadet, mon cadet aussi, en paieront le prix fort, parce que l'un se suicidera, le cadet, et l'autre s'exilera en Allemagne, il sera officier des forces françaises, et il s'est attrapé une belle collagénose, il en est mort. Voilà. Alors, l'un suicidé, l'autre exilé, il fait partie de ces victimes a posteriori collatérales de ce qu'on appelait autrefois les événements, et qui était la guerre d'Algérie. Voilà. Mmh. Et j'entendais parler de torture dans mon enfance. Alors, je ne sais pas si mon père, mon papa a été amené à faire ce qu'on appelait les corvées de bois. Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Donc,
est-ce que ça vous a fait peur d'imaginer que ce puisse être le cas ? Est-ce que vous
Ah non, je n'ai jamais voulu le savoir.
Mmh, d'accord.
Je n'ai jamais voulu le savoir. Parce que si vous voulez le savoir, ce genre de truc, ça n'en finit jamais.
Bien
et
sûr.
Puis ça ne me regarde pas.
Et vous voyez, c'est important parce que je fais une petite parenthèse. C'est à moi de les faire.
Oui.
Je fais moi des parenthèses aussi, des petites digressions. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il est difficile de faire avec ce qu'ont fait ou vécu nos parents, et notamment dans potentiellement les chemins de traverse, pour ne pas dire les horreurs, parfois qu'ils ont ou vécu
oui.
ou agi. Parce que ça devrait ne concerner en effet que les parents, et inévitablement, les enfants se sentent éclaboussés par tout cela. C'est difficile de faire
avec l'histoire. Je vous interromps très rapidement, on se sent concerné sur un plan de l'histoire.
Bien sûr.
Voilà, la grande histoire rencontre notre petite histoire. Mm-hmm. Quand je vous parlais hier vaguement de cet homme que je rencontre et qui a quelque chose de commun avec moi, les origines slaves, c'est que son père a fui l'Empire soviétique, mm-hmm. et il en a subi les conséquences. Voilà,
bien
que
sûr.
Ce soit la révolution bolchevique, l'Empire soviétique, l'Algérie, voilà, nous avons tous quelque chose, voilà. Mais comme le disait Paul, c'est un grand tabou, hein, que ce soit les harkis, les Français d'Algérie ou les fils d'officiers qui ont œuvré en Algérie, soit qu'ils ont été appelés, ils ont fait une sale besogne indépendamment de leur volonté, ou alors ils l'ont fait parce que leur psychologie les amenait, voilà, à zigouiller des mecs, à les torturer à la Gégène, etc.
Mmh.
On le sait très bien, ça. Donc, moi aussi, par mon éducation, j'ai été amené à m'intéresser à l'histoire. Et d'ailleurs, ce à quoi je me suis intéressé, c'est en dit long, et j'ai pu, avec cet homme que j'ai rencontré il y a 40 ans, voir Shoah, j'ai lu Primo Levi, j'ai lu des tas de gens comme ça.
Mmh.
Parce qu'effectivement, j'entends parler de torture, je ne saisis pas, mais je sais quelque part que c'est important, que ça dit quelque chose.
Bien sûr, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça, vous ne voulez pas savoir, et à la fois votre curiosité qui vous a fait lire à droite
je
et à
veux pas
gauche...
savoir sur l'intime.
Bien sûr.
Ça ne me regarde pas.
Bien sûr.
Vous comprenez ?
Mais
en même temps, la mort de mes deux frères me regarde.
Bah, évidemment, et ô combien, quand on voit comment elle est violente, elle ne laisse pas indemne. Donc, c'est qu'il y a de toute façon quelque chose. Vous disiez d'ailleurs de votre papa qu'il était sadique. Sadique, évidemment, ça en dit long.
Alors, mais... alors, que je vous explique, parce que là, il faut quand même un devoir d'explication. C'est que quand j'ai 8 ans, il en a 14. Voilà, dans la salle à manger, ça se faisait dans les années 50-60. Voilà, il fait ses devoirs de mathématiques le samedi matin ou l'après-midi, j'en sais rien. Et il se reçoit des branlées parce qu'il ne comprend pas les mathématiques. C'est une occasion, voilà. Mmh. Moi, je n'ai jamais été violenté.
Mmh.
Jamais.
Oui.
C'est pas un impensé. Je pense que c'est à travers ma mère que j'ai pu m'identifier à une figure féminine.
Mmh.
Mais voilà. Et donc plus tard, parce qu'il est excellent en allemand, il fuira la France parce qu'il fuit le père d'abord.
Mmh.
Hein, le père qui est un castrateur. On sait très bien. Voilà. Alors, c'est en cela. Donc je suis témoin impuissante d'un père dont je vois sur le visage.
Oui.
Qui a un effet de jouissance à frapper mon frère.
Mmh. Et oui.
Quand bien même on peut être intelligent, que c'est pas le frère que l'on voilà. Donc j'ai été obligée de me protéger non pas de ça, mais de ce que ça pouvait induire. Ce n'est que très très plus tard que j'ai comment dirais-je, que je m'autorise difficilement à penser à mon frère aîné sur ce plan-là, quoi.
Bien sûr.
Ce qu'il a subi.
Bien sûr, parce que ça vous ferait vous sentir coupable, non pas d'avoir agi, mais coupable d'avoir vous été protégé, et donc...
Oui, puis parce que d'associer sa mémoire à quelque chose uniquement de douloureux, alors qu'il n'était pas que ça. Hein.
Bien sûr.
C'est quelqu'un qui m'a envoyé il y a quelques années un travail remarquable, même d'historien, parce qu'il était passionné par la voiture. Il a fait un travail aussi de mémoire Voilà, il a eu quand même des joies qui lui ont permis de faire, mais enfin bon, il est mort quand même à 56 ans et l'autre à 26 ans. Ce sont des vies brèves.
Oui, et des vies sacrifiées.
Oui, voilà, des vies sacrifiées.
Absolument. Oui, parce que souvent, évidemment, la violence agit, et vous disiez une certaine jubilation dans la domination de que votre père pouvait agir.
Oui.
Évidemment, ça
oui,
montre une...
Absolument. Je crois que c'est davantage son passé. Il est issu d'une femme qui a quitté le Bordelais pour aller à Paris. Je n'ai jamais compris comment elle a... Parce que les gens étaient issus de paysans à l'époque. Hein. Il faut savoir, 70% de la population était des paysans. Et donc, à Paris, elle va monter un magasin de maroquinerie en face de Chanel, rue Cambon, rue Mythique, dans les années 30. Mm-hmm. Elle rencontrera un Russe qui fit la révolution bolchevique, voilà. Et mon père m'a toujours raconté, mais j'essayais de voir cet homme. Je ne savais pas qui était cet homme dans ce magasin. Voilà. Et donc, elle l'a mise d'abord chez des nourrices, après chez des viticulteurs dans le Bordelais, voilà. Donc, il est sans père, mon père. C'est un homme sans père. Mmh. Et c'est un homme qui sera soumis toujours à une femme qui est sa mère.
Oui, il est sans père.
Donc, c'était très, très complexe, vous comprenez ? L'Algérie n'est pas le seul... voilà.
Oui, bien sûr. Déjà, ça commence effectivement.
Déjà,
il y a un préalable.
Il y a déjà un contexte. Oui.
Bien sûr. Et il est sans père et à la fois avec une idée d'un père qui a vécu, qui a dû fuir, qui a dû se protéger.
Absolument.
Donc, c'est à la fois une grande image et à la fois une profonde absence. Donc, et lui qui est à la fois protégé par une maman parce qu'il reste auprès d'elle, mais à la fois complètement castré peut-être par elle, en effet.
Absolument. Je comprends pas parce que du côté de mon père et chez moi, je retrouve ça. C'est des choses absolument extraordinaires. Moi, je le voyais quand il y avait la famille, les oncles et tout ça. Il faisait un exercice de gymnaste sur la table. Mm-hmm. Il se mettait à l'horizontale, hein, par rapport à la table. Voilà. Mm-hmm. Et ça, je sais qu'il l'a appris des Russes, qui étaient des gymnastes. Quand on voyait à la télévision le Bolchoï, c'était ça, quoi. Mm-hmm. Hein, il ne pouvait se tenir que... Je ne sais pas si vous connaissez cette position de gymnaste.
Oui, je crois voir ce dont vous parlez.
Le corps n'est tenu que par le coude. Voilà.
C'est ça.
Donc il adorait faire ça. Où c'est qu'il a appris ça? Je n'en sais rien.
C'est marrant.
Il y avait une communauté de Russes à Paris qui jouait du violon. D'ailleurs, quand il y a une photo, je me souviens qu'il représentait avec un petit violon. Il avait à peine 6-7 ans. Donc qu'est-ce qu'il a vécu d'extraordinaire dans sa courte enfance heureuse? Je n'en sais rien.
Oui. Mais vous voyez, pour terminer là-dessus, si vous le permettez, Jocelyne, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que vous racontez de votre papa, comme ce que vous me racontiez tout à l'heure, concernant notamment un sujet assez horrible, qui est la torture, c'est-à-dire que à la fois l'enfant manque d'informations, ne veut pas avoir les informations, mais à la fois l'enfant recrée le lien, ou cherche à comprendre, ou à mettre des ponts pour essayer de trouver du sens. De sens à ça.
Oui, c'est ça. Hein. Oui, absolument.
Et donc
c'est toujours la quête de sens. Hein.
Exactement, la quête de sens, la quête de lien, parce que nous n'aimons pas l'idée de venir de nulle part. Nous avons besoin de trouver notre origine. Et on a peur de ce qu'on va trouver. Et à la fois, on cherche d'une manière ou d'une autre et on reproduit de façon absolument incroyable cette capacité que nous avons à ou reproduire ou s'intéresser à des sujets qui ont touché ce que toucher ou évoquer ou étaient les sujets de ceux qui nous ont manqué. D'une certaine manière, on essaie de garder le fil entre eux et nous. Et ce que vous venez de dire de votre papa qui s'évertue à un exercice qui définit une posture russe ou une capacité russe, lui qui a dû fuir, mais qui est porteur de ça, de ses origines et qui a besoin de les garder encore vivaces en lui. Et vous qui me disiez tout à l'heure que...
Mais il n'en parlait pas, hein.
Non, mais
il n'en parlait pas.
Il agissait, mais il n'en parlait pas, en effet.
Il n'en parlait pas.
Alors, Jocelyne, il va falloir que nous nous quittions.
Eh ben oui, c'est le problème du zèbre, c'est que je n'ai pas évoqué la question du zèbre. Alors, je ne sais pas s'il y a des ouvrages qui sont sortis là-dessus, sur les zèbres.
Alors, écoutez.
Pour essayer de savoir comment.
Je ne sais pas, mais je vais faire des recherches. Si je trouve des choses, je le ferai passer par Fanny ou Kelvin qui ne manqueront pas de vous les communiquer. D'accord ?
D'accord. Parce que comment fait-on, Catherine ? Là, je n'ai pas abordé la question du zèbre.
Ah, mais je vous avais fait choisir le sujet. Ce n'est pas le sujet que vous avez choisi aujourd'hui. Donc, vous pourrez appeler une prochaine fois et on essaiera de traiter la question du zèbre si on le peut. D'accord ? Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. J'étais encore heureuse de vous retrouver ce soir. Au revoir, Jocelyne.
Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée.